Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Si tu es professionnel de l'IT, passionné par le cloud et le DevOps, que tu es freelance ou que tu cherches à te lancer justement en freelance tout en bénéficiant d'un réseau solide, cette émission elle est faite pour toi. Nombreux sont les freelances en fait dans le mouvement DevOps qui se sentent seuls et complètement dépassés par les défis techniques, commerciaux qu'ils rencontrent au sein justement de leur activité professionnelle. Ils croient parfois à tort qu'être indépendant ça signifie être seul. Avancer tout seul, ce qui limite souvent leur potentiel et leur croissance. C'est là justement que le concept de collectif de freelance DevOps change tout. En rejoignant un groupe comme l'IDRA, tu ne seras plus seul et tu bénéficieras de l'expérience collective, du partage de connaissances et surtout d'une solidarité qui va transformer ta carrière.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité pour le découvrir. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'IDRA, notre collectif de freelance DevOps, mais je t'en parle à la fin du podcast. Donc, si tu es freelance, que tu cherches un collectif, reste bien jusqu'à la fin pour écouter mon petit message. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon dernier collègue au sein de l'IDRA, Daniel Gonsalves. Daniel Gonsalves, excuse-moi, qui est, comme le dit sa bio Twitter, dealer de produits du terroir, mais aussi freelance Python DevOps, qui est justement a rejoint l'IDRA en mars dernier. Il va partager avec nous son parcours, ses raisons de sa transformation en freelance et surtout pourquoi est-ce qu'il a rejoint un collectif. Comment cette décision a été un tournant dans sa carrière. Bref, dans ce podcast, on va voir ensemble comment rejoindre un collectif et comment ça peut t'offrir bien plus que de simples missions. En effet, ça peut t'offrir une communauté, un partage de compétences, des connaissances, mais aussi une façon d'automatiser ton infrastructure avec l'aide d'experts. Tu découvriras que le collectif, c'est la clé pour débloquer un potentiel qui est celui qui est latent dans tes projets. Ne rate pas donc cette conversation avec Daniel et surtout, si tu veux évoluer dans le DevOps sans renoncer à l'esprit d'équipe, prépare-toi à être inspiré. Alors, bonjour Daniel. Est-ce que justement, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie?
Alors, moi c'est Daniel, donc je suis dans l'IT depuis 2010 maintenant. J'ai eu une vie antérieure avant d'être dans l'informatique, j'étais caissier de station-service. Et j'ai fait une reconversion professionnelle au sein de l'AFPA de Dijon en tant que développeur. Donc j'ai eu un passé de développeur. J'ai fait ça en tant que freelance en tout début de carrière. Sauf que j'étais pas où je suis aujourd'hui, j'étais à Besançon, donc en Franche-Comté. Autant dire que niveau informatique, ça ne bouge absolument pas par là-bas. J'ai vivoté comme ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, et puis au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. Et donc est arrivé le moment du bilan. Je vivotais de mon activité de freelance. En tout cas, j'arrivais pas à en vivre suffisamment correctement à mon goût. Donc, j'ai décidé de repartir dans le monde du salariat. Et j'ai eu le choix entre deux grandes villes. C'était Paris ou Lyon. Finalement, ça a été Lyon. Et donc là, j'ai intégré notamment des éditeurs de logiciels où j'ai été développeur PHP, puis Python. J'ai travaillé avec l'ancêtre de Docker qui est LXC chez un éditeur de logiciels où on faisait des scripts d'initialisation de conteneurs LXC. Et puis les choses en emmenant une autre, à force de faire de la veille, d'entendre parler de DevOps. Alors moi, les premières fois où j'ai entendu parler de DevOps, c'était en 2010-2011, quelque chose comme ça. Et puis plus ça allait, plus j'en entendais parler, et plus ça m'intriguait, et j'avais envie de commencer à fouiller un petit peu ce domaine-là. Et donc en 2016, j'ai intégré une ESN à Lyon, où j'ai rejoint la R&D de cette ESN en tant qu'ingénieur DevOps. Donc on parlait déjà de poste DevOps. Donc on y reviendra, t'inquiète pas. grand sujet s'il en est.
Exactement.
Et donc effectivement depuis cette époque en fait j'ai un petit peu lâché le monde du dev et j'ai un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une appétence un petit peu particulière pour le système. Et aujourd'hui, j'arrive à concilier un petit peu ma passion du code, ma passion des systèmes. J'ai continué en tant que salarié pendant plusieurs années au sein de ESN, au sein d'un fournisseur cloud, et puis par la force des choses, il fallait que je me relance à mon compte. Le monde du salariat ne me convenait plus forcément, en tout cas j'y trouvais plus mon compte. Ça ne veut pas dire que je n'y retournerai jamais, mais en tout cas, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin d'un peu plus de liberté. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance et que j'ai rejoint notamment un collectif de freelance parce que c'est le fait d'échanger avec des pairs, le fait de pouvoir... avoir la force d'un collectif, d'avoir des communs qui sont construits par un collectif qui m'intéressait.
Je pense qu'on va y revenir sur ces communs. Mais avant, j'ai toujours deux petites questions que je pose aux invités, ça les aide à s'échauffer. La deuxième, du coup, que je vais te poser, c'est quoi ta définition à toi du DevOps ?
Grand sujet. Alors, on a même toujours aujourd'hui, d'un côté, des développeurs qui, en développant de nouvelles fonctionnalités, vont introduire des instabilités, des bugs. Et de l'autre côté, on a les ops, les administrateurs systèmes et réseaux, qui, eux, veulent des systèmes stables. Donc, on comprend très vite qu'on a deux postes différents dans l'IT qui ont des objectifs qui, a priori, sont opposés. L'objectif de DevOps, c'est de réconcilier les deux, par de la méthodologie, par de la communication et par un certain nombre d'outils.
Merci. Je crois que je suis assez proche de cette définition. C'est pas celle que je donne, mais c'est ça que j'ai en tête. En effet, je me retrouve là-dedans. Justement, t'en as brièvement parlé, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur justement ta rencontre avec le DevOps, mais surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans ta carrière, cette rencontre-là ?
Alors, en fait, j'ai intégré un lab donc en tant qu'ingénieur R&D, où effectivement, il y avait un architecte qui était très orienté DevOps, qui était passionné par ça, et il m'a transmis cette passion. Moi, en fait, à la base, il y avait une volonté qui était de continuer à faire du code tout en faisant du système. Voilà. Et effectivement, alors, moi, je vois aujourd'hui la réalité du marché, c'est que on a pris le mot ops, on a rajouté un petit peu de dev, ops, ça fait DevOps. Et puis voilà, en fait, on a rebrandé le terme d'ops. On a rebrandé le terme d'ops. Et c'est aujourd'hui ce qui me dérange un petit peu dans le monde du DevOps, en tout cas dans ce qu'on a fait le marché, dans le sens où c'est un peu dévoyé l'idée originelle de ce qu'est DevOps. C'est pas que je trouve que ce que je fais aujourd'hui est inintéressant, seulement c'est pas forcément du vrai DevOps tel que ça devrait l'être.
Je comprends mieux pourquoi tu nous as rejoint du coup.
Exactement.
Ça a changé quoi, du coup, dans ta vie, cette rencontre et cette passion? Parce que du coup, je crois qu'on vit la même passion pour le DevOps.
Alors, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que aujourd'hui, je vois les systèmes d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment très très orienté sur ma ligne de commande et les petites commandes que je tapais à la mimine, un peu comme un admin 6 à l'ancienne. Et moi, ça m'avait toujours dérangé, effectivement, et c'était ce qui me bloquait dans mes évolutions en termes d'ops ou d'apprenti ops, parce que je n'ai jamais été ops professionnel. En tout cas, jusqu'à ce que je rentre dans cette ESN qui m'a fait découvrir le DevOps, c'est les outils qui nous permettent justement d'automatiser et de rendre l'infrastructure reproductible. Donc ça a vraiment changé ma façon d'aborder la gestion des systèmes.
Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, puisque moi aussi j'ai un passé de développeur et... Entre le moment où je suis devenu ops et le moment où j'étais développeur, j'ai fait beaucoup de production. Et quand j'ai commencé à devenir ops, administrateur système, ce côté un peu à la main, à l'ancienne, me dérangeait énormément. J'étais dans un data center qui faisait tout à la main et je trouvais que c'était dommage. J'avais déjà, je savais qu'on pouvait automatiser des trucs puisque je l'avais déjà fait. Et en effet, du coup, c'est vrai que l'automatisation de l'infrastructure, c'est un truc qui est merveilleux. Enfin, je ne vivrais plus sans aujourd'hui. Je sais pas toi si c'est pareil, mais
oui, tout à fait, tout à fait.
Bon, alors on va vraiment commencer dans les vraies questions. Alors, justement, c'est quoi le plus grand défi que t'as rencontré en tant que freelance ou freelance DevOps, et comment tu l'as surmonté?
Tu parles depuis que, parce que vu que j'ai eu deux expériences en tant que freelance, une en tout début de carrière en tant que développeur, c'est plus vraiment orienté DevOps.
C'est comme tu veux. Tu choisis l'expérience que tu veux. Après, si le DevOps t'a aidé à surmonter un défi, c'est mieux.
Alors, parce que, en fait, de mon point de vue, en tant que freelance, alors il y a le début de carrière, c'est une chose, mais quand on se place en tant que freelance, il y a un aspect qu'on néglige souvent, c'est tout ce qui est soft skill. Alors je dis pas que c'est pas important quand on est salarié, mais en tant que freelance, ça devient encore plus important. C'est-à-dire que la technique, c'est une chose, mais c'est secondaire dans le sens où, en tant que professionnel de l'informatique, la technique, c'est censé être facile pour nous. Par contre, toutes les autres compétences, elles, sont beaucoup plus importantes, dans le sens où c'est là où tu vas faire la différence par rapport à un autre freelance. Donc, être capable de faire des reportings de ce qui a été fait de façon convenable, être capable de transmettre son savoir à des plus juniors, être capable de gérer un projet sans pour autant faire de la chefferie de projet, mais être capable de gérer le cycle de vie d'un produit. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on est senior, effectivement, mais c'est des soft skills qui arrivent et qui sont très importantes une fois qu'on est freelance.
Ça, c'est
donc,
sûr.
Donc, c'est là-dessus que je mettrais davantage l'emphase pour moi en tant que défi et compétences à avoir, c'est tout ce qui est annexe. Et notamment, et ça c'est un vrai sujet pour moi à l'heure actuelle, comment vendre les compétences commerciales qui elles sont indispensables à partir du moment, parce que on peut être le meilleur techniquement, si on ne sait pas se vendre, il n'y a personne pour consommer.
On va peut-être y revenir là-dessus justement. Du coup, je vais te poser une question. Est-ce que c'est l'un des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour devenir freelance dans le DevOps, de travailler ses soft skills, ou est-ce que tu en as d'autres?
Alors, si on veut se lancer dans le DevOps, quand on est junior, moi, le principal conseil que j'ai à donner, c'est faut pas chercher à vouloir faire du DevOps à tout prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. Soit on part dans le monde du dev, soit on part dans le monde de l'ops. Parce que la technique, c'est très vaste. Ça devient secondaire une fois qu'on a acquis une certaine connaissance technique, une certaine culture générale technique, j'ai envie de dire. Mais en début de carrière, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à acquérir. Il y a beaucoup de savoir, de savoir-faire à acquérir. Le savoir-être en est une autre. Mais il faut choisir soit le monde du dev, soit le monde de l'ops, faire ses premiers pas, se manger des murs, parce qu'on va s'en manger. Et au bout de quelques années, effectivement, si vraiment le DevOps nous intéresse, on peut se tourner vers le DevOps. Mais pour moi, le DevOps, c'est pas fait pour quelqu'un en début de carrière. Donc après, il faut avoir de l'appétence et pour le dev et pour l'ops. Si on veut s'intéresser au DevOps, il faut les deux. Donc une personne qui s'intéresse aux deux, je donnerais le même conseil qu'on m'a donné quand je me suis lancé, parce que j'avais aussi, au tout début où j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'avais cette question-là. Est-ce que je pars dans le monde de l'ops? Est-ce que je pars dans le monde du dev? Et il y a des professionnels à l'époque qui m'ont conseillé, si tu es intéressé par les deux, fais plutôt du dev et tu auras des passerelles après pour faire de l'ops. Ce sera plus simple pour toi dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce conseil était très pertinent. Et donc, c'est le conseil que je donnerai aujourd'hui à un junior qui veut faire du DevOps. S'il ne sait pas où partir, ou s'il a pas trop de préférence, s'il ne sait pas où placer le curseur, pars plutôt dans le monde du dev, fais une formation en dev. T'auras des connaissances et des compétences que tu vas acquérir qui seront très intéressantes par la suite quand tu voudras basculer dans le DevOps.
C'est un très bon conseil qu'on t'a donné. Je pense que j'aurais donné le même aussi parce que j'ai fait ce parcours-là. Mais c'est clair que être développeur ou développeuse, j'ai l'impression que c'est plus facile dans le sens où ton périmètre il est plus réduit. Parce qu'on a tendance, et puis d'ailleurs, ça m'étonne que tu aies entendu parler des ops à ce moment-là. Mais tu veux réagir là-dessus?
Je suis pas forcément d'accord parce que le monde du dev est très large aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses à acquérir. Il y a beaucoup. C'est pas forcément un scope plus réduit ou il y a pas un scope qui est plus réduit que l'autre. Je pense que le monde des ops est aussi très très vaste aussi. Mais sur d'autres choses que la technique, éventuellement. Si le point faible de la personne, ça va être les soft skills, le monde de l'ops peut être éventuellement intéressant parce que dans le monde de l'ops, il y a une culture de la documentation, il y a une culture des procédures qui est beaucoup plus forte. Et donc, ça permet de développer des soft skills, notamment en communication. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, ça dépend des appétences des uns et des autres. Mais pour moi, il n'y a pas de conseil absolu. Mais si vraiment la personne ne sait pas où partir, le dev, sur la technique pure, le dev est très intéressant.
Surtout que ça va apporter des bases de réflexion et notamment sur l'algorithmie, qui sont, à mon avis, comment dire. Moi, quand je suis devenu ops, si j'avais pas eu les bases d'algorithmie que j'avais en tant que développeur, je pense que j'aurais jamais écrit mes scripts ou mes automatisations de cette manière-là. J'aurais écrit comme mes autres collègues qui n'avaient probablement jamais fait de développement. Et je n'aurais pas fait autant de fonctions, enfin plein de trucs qui viennent en fait de mon passé de développeur.
Tout à fait.
Eh bien, justement, est-ce que tu peux nous dire quel cheminement, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir freelance, mais surtout, enfin, freelance DevOps, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'a motivé à rejoindre un collectif comme l'Hydra?
Alors, tout simplement, j'ai eu une expérience un peu malheureuse avec mon précédent employeur, et en fait, je m'étais toujours dit, parce que c'était un peu compliqué déjà en période d'essai, etc. Et moi, je me suis accroché un petit peu au poste, un peu pour une question d'ego, très clairement, parce que ça me faisait plaisir de travailler pour cet employeur, parce que pour tout un tas de raisons. Mais en même temps, c'était compliqué déjà, même en période d'essai, il y avait des choses qui allaient pas, il y avait des choses qui me gênaient. Et j'ai jamais été trop à l'aise non plus chez cet employeur. Et je m'étais toujours dit, bon bah si ça marche pas chez lui, je me relance à mon compte. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé, parce que le monde du salariat est loin d'être inintéressant, mais il y a une chose qui m'a toujours intéressé dans le monde de l'entreprise, c'est l'univers des scopes et l'univers de l'économie, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est un peu un gros mot, un grand mot plutôt qu'un gros mot, c'est plutôt un grand mot, mais... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire quelque chose avec des pairs de m'enrichir, moi, d'enrichir un collectif plutôt que d'enrichir un patron ou d'enrichir des actionnaires.
Là, tu parles d'un enrichissement pécunier, pas qu'un enrichissement culturel.
Il y a les deux. Les deux. Alors, l'enrichissement culturel, de toute façon, l'enrichissement... personnel, même quand on est salarié dans une entreprise entre guillemets classique, j'ai envie de dire conventionnelle, l'enrichissement, il est là, l'enrichissement technique, l'enrichissement au niveau soft skills, pour celui qui veut le trouver, il le trouve, ça c'est pas un problème. Mais l'enrichissement d'un point de vue financier, faut pas se voiler la face, hein, c'est pas, on va pas s'enrichir en bossant pour un patron.
C'est plus dur, d'ailleurs. Moi, j'en parle, je crois jamais, mais je sais pas de quel niveau t'as suite à ta reconversion. Mais moi, j'ai un BTS et ça a été très dur durant ma période de salariat pour faire augmenter mon salaire parce que je suis parti à l'époque où j'ai commencé, j'avais 8000 francs. Oui, je sais, c'est il y a longtemps. Et je crois que le salaire le plus énorme que j'ai dû avoir, c'était sur la fin de ma carrière de salarié où j'avais 40 000 euros par an, ce qui est très loin de ce qu'aujourd'hui peut avoir des salariés actuels. C'était en 2014, donc c'était il y a 10 ans déjà, où j'ai l'impression que les tarifs se sont enflammés. Mais moi, la voie que je voyais, en effet, pour devenir freelance, c'était améliorer mon salaire, parce que, étant donné que j'ai pas les diplômes, même si j'ai de l'expérience, les boîtes ne me payaient pas à la hauteur de mes capacités. Je sais pas si tu l'as constaté, ça, toi.
Ben, en fait, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ne veulent pas augmenter leurs salariés parce que, bah, alors, oui, mais tu comprends, si je l'augmente lui, il faut que j'augmente un tel, il faut que j'augmente un tel, il faut que j'augmente un tel, parce que, bah, effectivement, les gens, ils discutent entre eux. Et du coup, bah, plutôt que d'augmenter toute une équipe, on préfère voir le savoir partir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de la dette technique dans tous les sens. Donc, on fait une fuite en avant, tout simplement.
Ouais, je suis d'accord. J'ai jamais compris ça. Mais bon.
Non, mais moi non plus, hein, je le comprends pas. Hein.
Mais bon.
Je le comprends pas. Mais c'est la logique actuelle du monde de l'entreprise. On fait une fuite en avant, et puis, plutôt que d'augmenter, de donner les 3K de plus qu'il demande à celui qui est là en poste depuis 3 ans, qui a les connaissances et les compétences pour le poste, eh ben les 3K, on va les donner à son remplaçant, qui n'aura pas l'historique, qui va mettre 6 mois à se former sur la stack. Enfin voilà, c'est une façon de voir les choses. Donc au moins une fois qu'on est freelance, on bosse pour soi, on essaye de faire les choses au mieux pour le client. Et puis de toute façon, on n'a pas vocation à rester toute une vie en tant que freelance, on n'a pas vocation à rester toute une vie chez un client.
Non, c'est clair.
Même si le salariat déguisé existe, hein, très clairement.
Mais d'ailleurs, Thomas et moi et toi, on n'a pas la même approche du client, parce que pour l'instant, t'es mono-client, mais nous, on est plutôt multi-client, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient avec le temps, en fait. Plus tu avances dans le freelancing, plus tu essayes de diversifier tes clients pour éviter d'être justement lié à un seul client.
C'est un côté dangereux.
Ouais, c'est un côté dangereux, ouais.
Ton client, c'est un côté dangereux parce que le jour où la mission s'arrête, il n'y a plus de revenus.
Oui, c'est ça.
Alors que c'est plus compliqué d'arrêter 7-8 missions d'un coup, enfin 7-8 clients d'un coup, parce que là, on parle plus de mission, on parle de clients qui ont des petites missions à chaque fois, qui ont des petits sujets à chaque fois. Mais si tu as 8-10 clients, pour que les 8-10 clients te lâchent en même temps, c'est compliqué.
Oui, il faut vraiment que tu sois mauvais. Là, dans ce cas-là, il faut que tu te reposes des questions sur ta posture d'indépendant. Donc du coup, tu as voulu rejoindre une SCOP, c'est ça? C'est ça que tu nous dis? Alors,
Je me suis renseigné sur ce qui existait. Donc effectivement, en termes de SCOP, moi au départ, je m'étais renseigné sur Helicoop, une CAE qui est en région lyonnaise. Et puis, c'est par Twitter ou par LinkedIn, je sais plus. Tu avais lancé appel à l'action pour rejoindre l'Hydra et c'est une connaissance commune qui m'a pingé et c'est comme ça que j'ai vu ton appel à l'action parce que je l'avais pas vu tout de suite et c'est là qu'on est rentré en contact en fait.
Tout à fait. Et donc tu t'es dit rejoindre un collectif.
Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de rejoindre, une CAE, de rejoindre une SCOP, de rejoindre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le projet d'ESN en mode SCOP. C'est un peu comme ça que je vois l'Hydra pour vulgariser. C'est comme ça que je pourrais vulgariser l'Hydra aujourd'hui. C'est une ESN, mais c'est une ESN en mode SCOP, donc en mode collectif,
exactement.
En mode coopératif.
Parce que nous, on fait partie d'une société coopérative. Alors, on va peut-être pas aborder le sujet aujourd'hui. Si ça t'intéresse, le monde des scopes, je te mets en description et en fiche YouTube une autre vidéo que j'ai faite justement sur les scopes et l'entrepreneuriat. Nous, on va parler plutôt du collectif. Et justement, quand tu as choisi de rejoindre l'Hydra, comment s'est passé ton accueil au sein de l'Hydra? Et la question que je me pose, et je crois qu'on te l'a jamais posée, c'est comment tu as vécu le fait que Thomas et moi, on était un binôme avant ton arrivée? Est-ce que ça n'a pas été justement dur de rejoindre un binôme, de te faire une place dans ce binôme pour qu'on devienne un trio?
Alors, l'intégration en elle-même, en fait, ça s'est passé, j'ai envie de dire, presque comme dans une entreprise classique. Dans le sens où je suis arrivé au tout début, on m'a donné mes accès à mes différents comptes, on m'a expliqué un petit peu les différentes procédures, les différents outils qu'on utilisait, etc., etc. Et c'est là la force du collectif, c'est que il y avait des communs qui étaient déjà là en fait. J'ai pas eu à tout construire moi de A à Z. Aujourd'hui, on a un outil de comptabilité, donc on met toute notre comptabilité dans un Dolibar. Le Dolibar, c'est pas moi qui l'ai installé, c'était déjà là en place. Si j'avais été à mon compte en mode auto-entrepreneur ou en SASU ou en EURL ou ce que tu veux, c'était moi qui devais l'installer, c'était moi qui devais mettre ça en place. Ça a un coût aussi. Parce qu'il faut payer l'infrastructure pour l'héberger, parce que il faut le mettre en place. Donc ça demande du temps, ça demande des compétences. Après, il faut apprendre à l'utiliser, etc., etc., etc. Là, c'était déjà en place. Il y avait déjà des gens pour m'aider, pour me dire, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche, etc., etc. On a un Jitsi. J'ai pas eu à installer de Jitsi pour faire des visios avec mes clients, par exemple.
Tu utilises du collectif pour les visios avec tes clients?
Pour l'instant, je l'utilise pas, mais effectivement, si je devais un jour faire des visios, le Jitsi, je sais que Jitsi est là. Il y a le Mattermost, donc pour travailler avec les pairs du freelance, les pairs du collectif, je veux dire. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont en place, qui sont déjà existantes en fait, et pour lesquelles j'ai pas eu à me préoccuper de leur mise en place et de leur installation. Après, sur ma place au sein du duo, en fait, elle s'est faite assez naturellement. Dans le sens où il y avait une véritable volonté d'ouverture de votre part. Donc j'ai pas eu à me faire ma place, elle s'est faite toute seule.
Ah, tu t'as senti du coup qu'on est, qu'on, justement,
Ah, mais il y a une vraie volonté, il y a une vraie volonté d'ouverture du collectif à d'autres. Donc, il n'y a pas à se faire sa place. La place, elle s'est faite un peu toute seule. Alors, effectivement, je pourrais te retourner la question. C'est-à-dire que comment vous avez vécu mon arrivée? Est-ce que j'ai pas pris un peu trop de place? Ou est-ce que, au contraire, vous vous attendez à ce que je prenne plus de place, etc.? Je pourrais te retourner la question, hein, d'ailleurs.
Ben, tu veux me la retourner? Je peux répondre, hein. Non, ben, écoute, nous, comme tu l'as dit, ça faisait un moment qu'on voulait grandir. Parce que deux, c'est bien, mais, là, des intérêts du collectif aussi, c'est de pouvoir, c'est ce qu'on fait avec Thomas, d'ailleurs, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voudrait faire, c'est de pouvoir avoir des missions à pouvoir traiter à plusieurs, avec quelques jours par semaine, et donc, du coup, à avoir des missions d'ampleur. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire, mais, on veut faire grandir ce collectif parce que on sent que, comment dire, nos valeurs et la manière dont on fait les choses, on peut les partager avec plein d'autres freelances et on a vraiment envie que l'Hydra ce soit grand, et puis l'Hydra soit reconnu comme un fer de lance du DevOps aussi. Ça, c'est un peu mon dada. C'est pas pour rien qu'on a lancé les compagnons du DevOps à côté, qu'on essaye d'animer la communauté, qu'on fait ce podcast. Tout ça, fait partie de notre désir d'ouverture. Même si Thomas et moi, on a des projets à côté, le collectif, lui, est ouvert. Les discussions, je pense que tu peux en témoigner, mais les discussions, la gouvernance, on va dire, notre collectif, elle est plutôt ouverte et très partagée.
Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi.
Bon. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est une question qu'on me pose jamais, alors je l'avais pas mis dans les questions que je t'ai envoyées, mais vu que tu t'en parles tout à l'heure, du fait de pas mettre en place les outils, etc., je me pose la question du coût financier du collectif. Comment ça marche justement la création de commun au sein de l'Hydra et plus globalement de la coopérative, puisque nous on est dans une coopérative qui s'appelle Oxalis,
Effectivement, ça a un coût. Le coût, il y a une contribution. Cette contribution, elle se divise en deux parties. En fait, il y a une partie pour la CAE et il y a une partie pour le collectif Hydra au sein de la CAE. Donc, ça représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, c'est loin d'être négligeable. Par contre, dans ces communs, il y a par exemple une assistante administrative qui s'occupe de gérer toutes les notes de frais pour nous, qui s'occupe de gérer toutes les factures pour nous, de les relancer, d'aller relancer les clients quand c'est pas payé, de vérifier que les factures sont bien payées et de relancer quand il y en a besoin. Donc de ce point de vue-là, c'est une certaine tranquillité d'esprit. Et les communs ont un coût. Qu'on soit à son compte, j'ai envie de dire, en mode conventionnel, ou au sein d'un collectif comme l'Hydra. Les communs ont un coût, donc ce coût-là, on le retrouve dans la contribution, effectivement.
Mais du coup, ce que je comprends, parce que c'est aussi pour ça qu'on avait mis en place une assistante administrative, c'est que le fait que, si on prend cet exemple-là, le fait que quelqu'un s'occupe de toute la paperasse, on va dire, pour nous, ça nous permet d'être tranquille, de pas le faire, et puis surtout de faire ce qu'on aime faire et de vendre plus finalement.
C'est ça. C'est du temps de gestion en moins. Effectivement, alors il y a des entrepreneurs qui aiment faire leur compta et moi je fais aussi de la compta de mon côté, mais c'est simplifié par rapport à ce que je ferais si j'étais en mode conventionnel.
Oui, surtout qu'en plus, là, on enregistre ce podcast, on est en pleine clôture comptable, et c'est vrai qu'on est en train, tous les trois, de regarder comment ça se passe, parce qu'on a un chiffre d'affaires conséquent, on va dire, et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça nécessite quand même une attention, mais tout le récurrent et tout le quotidien, en fait, est plutôt géré. Justement, l'adhésion à un collectif de freelance comme celui de l'Hydra, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça fait maintenant presque un an que tu es avec nous, ça fera un an le mois prochain si je me trompe pas. C'est quoi finalement ton retour sur cette première année et le fait d'être dans un collectif?
En fait, le fait d'être dans un collectif, alors on en revient encore une fois au commun, c'est que c'est un accélérateur. c'est que c'est un accélérateur dans ma gestion dans la gestion de mon activité de freelance, puisque bah il y a tout un tas de choses que j'ai pas à me préoccuper. Donc effectivement, un an après, moi ce que je vois, c'est que je peux me concentrer sur la mission auprès de mon client. Je fais beaucoup, je fais ça énormément. Enfin, c'est quand même 4 jours par semaine. Je me garde un jour par semaine pour développer d'autres aspects de mon activité. Mais aujourd'hui, je peux me consacrer essentiellement à mon client et au développement de mon activité, et j'ai pas à me préoccuper de la compta, j'ai pas à me préoccuper des notes de frais, j'ai pas à me préoccuper de tout ça en fait.
Oui, et puis pour l'instant c'est collectivement on s'occupe des outils, mais le jour où tu vas y mettre les mains dedans, ça va pas représenter le même temps que si tu le faisais seul aussi.
C'est ça. Et puis si je le fais en fait, le truc c'est que encore une fois dans l'informatique on est des grosses feignasses. Donc si je le fais pour moi, le faire pour moi ou le faire pour un collectif, le coût sera le même, mais collectivement on y gagne.
Bah clairement oui, je suis d'accord. Alors, aujourd'hui on est ultra outillé. Je sais pas si tu peux en parler, mais on a beaucoup d'outils. On a un portail d'outils qui représente je crois 60 d'outils. On a beaucoup d'outils hébergés. Toi, si tu avais été freelance tout seul, tu n'aurais jamais eu tous ces outils. Hein. On est d'accord.
Non, j'aurais pas eu la moitié, en fait. J'en aurais pas eu la moitié. Je me serais occupé d'installer un outil de comptabilité. J'aurais pris éventuellement un prestataire pour la boîte mail. Et puis je me serais pris un comptable. Et puis voilà. Et puis j'aurais fait toute la compta que je dois envoyer au comptable tous les mois. Et puis voilà, ça m'aurait pris du temps administratif, ça m'aurait pris du temps pour installer l'outil de comptabilité, ça m'aurait pris du temps, enfin voilà, ça m'aurait pris du temps pour tout un tas de choses, et je serais pas aussi bien outillé que ce qu'on est là aujourd'hui. Par exemple, on a un outil de gestion du temps qui s'appelle Kimai. Cet outil, il me sert pour le reporting auprès de mon client sur ce que je fais. Donc tel jour j'ai bossé, etc. Donc c'est ce que j'envoie à mon client tous les mois.
Je crois même que c'est pas toi qui le fais.
Sinon ça serait dans un tableur Excel, fait comme un gros crado tous les mois, et puis j'y passerai un temps monstre.
Je sais pas si c'est toi qui le fais tout le temps, mais il me semble que une grande partie des mois c'est notre assistante administrative qui le fait en plus. Ou tu le fais toi aussi? Je sais plus.
Non, moi je remplis les le temps passé.
Tu remplis le temps
passé. Et puis après c'est elle qui s'occupe de faire les exports et de joindre ça
à la facture
au client.
Ouais.
Dans la facture.
C'est ça.
Donc ça pareil, j'ai pas à m'en préoccuper, c'est elle qui le fait.
Bah oui, c'est ça. On a aussi la gestion des mots de passe partagés, le chat comme tu l'as dit, on a la visio, enfin on a des tonnes d'outils. En effet, on se serait jamais occupé de ça, mais
non.
Plus on est nombreux et plus ce sera intéressant, justement, on sera vraiment. Alors moi, j'aime pas ce terme ESN, mais c'est pour ça que j'utilise le terme collectif. Je me sens vraiment plus comme un collectif, mais
si je devais vulgariser, encore une fois, c'est pour que les gens comprennent ce qu'est l'Hydra, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est davantage un collectif qu'une ESN. Parce que les ESN, ESN, SS2I, même combat, j'ai envie de dire, hein, c'est des vendeurs de viande. Enfin, toute proportion gardée, il y a quand même des bonnes ESN dans le lot. Hein. Il y a quand même des bons acteurs, mais ils sont rares.
Oui.
Ils sont très rares.
C'est ça, ils sont rares. Moi, j'ai jamais travaillé pour eux, mais si je les avais connus avant, peut-être que j'aurais travaillé pour eux, j'aurais jamais été freelance.
Et typiquement, le client, enfin l'ESN qui me porte auprès de mon client à l'heure actuelle, auprès du client final, est une bonne ESN. Hein. Clairement, ils ont bien compris les problèmes des ESN aujourd'hui, etc. Donc il y en a des bons aussi.
Oui, puis elle est toute jeune, elle s'est montée il n'y a pas longtemps en plus, je crois.
C'est ça.
Justement, alors tu parlais du commun, etc. Est-ce que le commun, au sein de l'Hydra, ça comprend aussi le commercial? Et si oui, comment ça se passe, et sinon, comment tu fais?
Alors non, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de commercial attitré, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Ça, c'est un sujet qui pourra venir éventuellement le jour où on commencera à être un nombre conséquent de sous-traiter la partie commerciale ou de voir comment on fait. Mais aujourd'hui, chaque freelance est responsable de son chiffre d'affaires. Il y a une règle pour l'apport d'affaires au sein du collectif, mais c'est pas la norme et c'est pas le collectif. Le collectif n'est pas pourvoyeur de mission. Mmh. En tout cas, aujourd'hui.
C'est oui.
Je dis pas que ça peut pas évoluer, mais aujourd'hui, le collectif n'est pas pourvoyeur de mission. C'est-à-dire que c'est à chaque freelance de se trouver sa mission, de se trouver ses clients. C'est pour ça que je disais que pour moi, c'est un vrai sujet, le fait de trouver les clients, parce que c'est une compétence que je n'ai jamais développée auparavant. Même quand j'étais freelance en tout début de carrière, voilà, j'étais pas à l'aise comme je peux l'être aujourd'hui, notamment sur la technique. Donc du coup, sur la partie commerciale, ça se ressentait dans mon discours.
Mmh. Oui, puis c'est pas facile. Hein. Même moi, je vois, même si ça fait presque 10 ans, je suis pas non plus à l'aise. Alors, j'ai pas de mal à trouver des missions, mais c'est une vraie compétence en effet. Et aujourd'hui, en effet, quand on rejoint le collectif, on est responsable de son chiffre d'affaires parce que ce qu'on a sur la chose sur laquelle on n'a pas été clair, mais c'est qu'on reste dans l'idée d'être des freelances, c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, une fois qu'on a versé la contribution, eh ben, il nous appartient et on en fait ce qu'on en veut. On paye nos frais, on paye notre salaire, on garde une partie pour les années suivantes. Chacun est responsable de sa propre gestion, puisque oui, on se paye des salaires. En coopérative d'activité et d'emploi. Ça, on n'en a pas parlé. Peut-être qu'on pourra en parler. Je crois que tu l'as brièvement abordé. Mais aujourd'hui, on n'a pas de commercial. Parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Et c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, on ne peut pas payer de commercial.
On n'est pas encore suffisamment nombreux.
Peut-être qu'on sera 10 ou 20, je ne sais pas.
Là, ça pourra avoir du sens, oui, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est pas l'idée. Donc, si quelqu'un veut rejoindre le collectif en espérant obtenir des missions, bah c'est pas l'objectif premier du collectif. En tout cas, aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. Dans 10 ans, on en reparlera.
Voilà, on pourra en reparler dans quelques années. Hein, c'est pas un souci. Hein, mais moi, franchement, je rêverais qu'on atteigne ce niveau-là. Hein.
Ah bah, moi aussi. Mais déjà. Payons notre administratif et après, on payera notre commercial. Ok, alors, il y a un truc, souvent quand on est freelance, c'est l'équilibre vie pro et vie perso. C'est encore plus vrai quand on est entrepreneur et nous, on a la double casquette, freelance-entrepreneur du coup, puisqu'on est un collectif, on doit l'animer, etc. Comment t'arrives à gérer justement ton équilibre avec ta vie pro, ta vie perso et tes passions?
Alors, j'ai la grande chance d'avoir un client qui est très compréhensif. Je parle du client final, hein, qui est très compréhensif et qui m'autorise le full remote. En même temps, il n'a pas trop le choix puisqu'il est à Lille et je suis à Lyon. Donc forcément, aller tous les jours au bureau, ça serait compliqué. Du coup, je suis en full remote, donc en termes d'équilibre vie pro vie perso, le full remote me convient parfaitement parce que bah du coup, ça, je perds pas 2 heures dans les transports tous les jours, ça me laisse du temps pour faire du sport, ça me laisse du temps pour faire des activités qui me plaisent, ça me laisse le temps de faire un petit peu de cuisine aussi parce que voilà, on se prépare nos repas avec madame. Bah voilà, ça me laisse le temps de faire des choses en fait. Donc cet équilibre là, je l'ai parce que bah effectivement j'ai la chance de pouvoir être en full remote. Aujourd'hui bon, le full remote est un vrai sujet. Mmh. Et le meilleur moyen d'accéder au full remote, c'est de se créer sa propre activité en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis dans une forme un peu particulière de salarié un peu déguisé, même si j'aime pas trop ce terme-là, où je suis en mission pour un client exclusif. Moi, mon objectif à terme, c'est d'avoir, comme toi, hein, plusieurs clients, de travailler au forfait et de travailler de chez moi. Donc comme ça, je maîtrise complètement ma vie, je l'organise comme je l'entends et je suis vraiment libre dans mes activités et dans mon organisation de vie.
Ouais, c'est clair. Et en plus, ça correspond aux valeurs que nous, on a, puisque moi, à chaque fois qu'on m'approche pour des missions ou autres, moi déjà, je présente toujours le collectif, parce que même les gens, ils me contactent moi, mais moi, je présente le collectif. Et à chaque fois, je dis, nous, on fait que du remote. On peut se déplacer pour des réunions, pour des événements, où c'est évident, mais on va pas aller travailler chez les clients pour éviter en plus l'aspect encore plus pervers et plus pernicieux, je sais pas si tu l'as connu dans ta première vie de freelance, qui est quand tu es freelance mais que tu vas travailler chez ton client, il a tendance à te considérer comme un salarié.
Tout à fait. Tout à fait. Bon, ça, on le vit aussi quand on est en ESN. Alors en ESN, non, c'est encore différent. C'est-à-dire que alors aujourd'hui chez mon client actuel, j'ai vraiment je sais pas si c'est lié au fait que je sois en full remote ou si c'est vraiment la mentalité du client. Je pense que c'est quand même davantage la mentalité du client qui est orientée freelance et qui a un vrai respect des freelances. Mais j'ai connu aussi des clients qui me considéraient un peu comme un salarié, mais payé comme un freelance. Quand on est en ESN, c'est encore plus dur dans le sens où on est le larbin de service.
Mmh. On n'est pas forcément le mieux payé en plus.
Mmh.
Donc, le remote, c'est bien. Donc, c'est ça qui arrive à te permettre de gérer ton équilibre.
Tout à fait.
Et du coup, on va parler un peu des communautés parce que tu le sais, hein, on a fondé une communauté, les compagnons du DevOps, mais de manière plus grande, le DevOps, c'est quand même une grande communauté. En tout cas, j'ai l'impression qu'on partage des choses, même la tech, de manière générale, encore plus large. Est-ce que pour toi, ça a une importance, justement, la communauté dans le domaine du DevOps? Et comment est-ce que tu y contribues? Et je sais que tu fais des choses pour la communauté.
Alors, effectivement, la communauté a un grand... mais ça, c'est valable pour la tech en général, en fait. Hein, la communauté au sens large, le partage et les retours d'expérience sont fondamentaux. Parce que c'est effectivement dans les meet-up qu'on a des retours d'expérience sur tel ou tel cas d'usage, sur telle ou telle pratique, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché, etc. Les retours d'expérience sont des éléments essentiels dans nos vies de techniciens pour pouvoir faire la part du pour et du contre de telle ou telle chose. Alors effectivement, comment j'y contribue, déjà je fais partie d'une association à Lyon qui s'appelle les Cafés DevOps. Donc où on organise des meet-up, on essaye de faire ça à peu près tous les mois, des meet-up sur des sujets DevOps, Dev, Ops, DevOps, au sens très large du terme. Donc on a une belle communauté aujourd'hui de plus de 700 membres.
Bravo.
Je suis aussi investi au sein de l'association Cloud Alp. Donc, on a monté l'événement Cloud Alp en septembre dernier. Là, on est en train de monter un nouvel event, donc monté par la même asso, mais qui ne s'appellera plus Cloud Alp. On va bientôt faire des annonces, donc je vais pas trop spoiler les gens.
Ne spoil pas.
Donc voilà. Je contribue aussi à des projets open source. Que ce soit dans le code, comme par exemple AWX, où j'ai déjà fait quelques PR, projet Timux, où je contribue d'un point de vue financier, je fais des dons au développeur principal de Timux, parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien, que j'adore, et je pense qu'il faut soutenir les développeurs des outils qu'on apprécie. Je fais des dons aussi à Framasoft, pour le combat du libre au sens large. Voilà.
Écoute, je crois qu'on se retrouve alors là-dedans, puisqu'on a aussi fait des dons à Framasoft, et je crois que Thomas fait aussi d'autres dons à des logiciels libres qu'il utilise. Et on va parler un peu de perspective et on va se projeter dans l'avenir, si tu le veux bien. Comment tu vois le domaine du DevOps et ta carrière de manière générale dans les années à venir?
Alors, moi, j'ai toujours été un touche-à-tout. J'ai toujours été intéressé par tout un tas de techno et j'ai toujours été touche-à-tout. Et c'est aujourd'hui ce qui fait un peu ma force en tant que DevOps, c'est-à-dire que je peux monter très vite en compétence sur un sujet, mais c'est en même temps ma faiblesse parce que les entreprises cherchent des experts. Donc aujourd'hui, je suis sur une stack technique donc AWX, pour ne pas la citer, et donc je suis en train de me spécialiser effectivement sur AWX et Ansible. Donc Ansible, j'ai déjà pas mal d'expérience dedans, et AWX, donc qui est l'interface graphique qui vient autour d'Ansible, je suis en train de me spécialiser vraiment complètement dedans. Donc mon avenir autour du DevOps, ça va être de l'expertise sur ces sujets-là. Après, mon péché mignon, ça reste quand même le développement en Python. Donc je me ferme pas la porte à du dev notamment en Python, pas que, mais je me ferme pas la porte à du dev, mais ma stratégie en tout cas sur les années à venir, c'est une spécialisation, une expertise sur des sujets d'automation.
Ça tombe bien, on aime tous Ansible, comme tu l'auras remarqué au sein du collectif, on a tous ça. Et en effet, moi, c'est un des conseils que je donne régulièrement aux freelances, c'est trouve ta spécialisation, ce qui te plaît, et focalise-toi dessus. Parce que moi, au début de ma carrière de freelance, j'acceptais tout, de peur de... Et en fait, ça t'amène à faire tout et n'importe quoi. Et quand on est ops, on peut te demander des tonnes de trucs. Allez, vas-y, installe-moi GitLab, vas-y, installe-moi Vault, vas-y, installe-moi Kubernetes. Faut que tu me développes l'intégration continue et le déploiement continu de l'application, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est pesant, déjà, mentalement, de devoir gérer tout ça. Je parle de ça, j'étais souvent seul, hein, j'étais le seul ops dans l'équipe, donc je gérais tout seul. Mais du coup, la spécialisation te permet de, déjà, la première chose, d'être serein vis-à-vis de ce que tu fais, parce que tu sais le faire. Et en plus, et l'avantage, c'est que tu peux augmenter tes prix parce que tu sais faire des choses que les autres, peut-être, ne savent pas faire. Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais c'est ma philosophie aujourd'hui.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où le fait d'accepter tout et n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de faire tout et n'importe quoi de façon moyenne, voire médiocre. Médiocre au sens péjoratif du terme. Hein. Donc au mieux, on fait les choses, ça marche. Au pire, on fait du caca.
Oui, puis il y a, à mon avis, un problème à réapprendre. Si tu prends une mission régulièrement, genre tu changes de mission toutes les années et tu réapprends des nouvelles choses toutes les années, alors c'est pas mal d'apprendre, mais du coup, tu vas être productif assez tard et donc ton client va se dire, mais tiens, mais pourquoi ? Et il va peut-être pas forcément comprendre que tu connais pas toutes les technos qu'il te demande. Et c'est complexe en fait. Donc, quelques technos... focaliser et puis bien travailler ses bases pour justement faut quand même connaître pas mal de choses hein. Je dis pas qu'il faut faire qu'un truc, mais il faut avoir des spécialités.
Je suis tout à fait d'accord.
Et ben justement, comme le DevOps et le cloud de manière générale, c'est un domaine qui est en constante évolution, on le revoit encore aujourd'hui. Toi, tu fais comment pour rester à jour avec les nouvelles technos et les nouvelles méthodes qui sortent?
Alors, pendant longtemps, là, je suis en train de m'en...
C'est pas grave, ça arrive.
Pendant longtemps, ma principale source de veille techno était Twitter. Et là, je suis en train d'en sortir un petit peu pour tout un tas de raisons. Ma principale source de veille techno aujourd'hui, c'est LinkedIn. Qui est en train de devenir un outil de veille assez intéressant, je trouve. Parce que, bah, effectivement, et moi, je me ferme absolument pas à l'idée de devenir moi-même créateur de contenu, mais en tout cas, il y a tout un tas de créateurs de contenu maintenant sur LinkedIn qui fournissent du contenu de qualité sur sur leur niche, et du coup, c'est très intéressant de voir. Alors, effectivement, hein, ils font pas ça gratuitement, dans le sens où l'objectif, c'est d'avoir une notoriété, et c'est du personal branding, hein, très clairement. Mais ils fournissent quand même du travail de qualité. Donc, je me ferme pas à l'idée de devenir moi-même créateur de contenu là-dessus. Aujourd'hui, ma principale source d'infos, ça reste Google. Ça reste les sites des éditeurs de logiciels et quelques vidéos sur YouTube de temps en temps. Mais je pense que la veille techno, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que bah, effectivement, chacun va avoir sa façon de faire sa veille. Il y en a qui vont faire beaucoup de veille par des vidéos YouTube, il y en a qui vont faire de la veille par des bouquins, il y en a d'autres, ça sera les articles de blog, il y en a d'autres, ça sera les réseaux sociaux. Moi, ça l'a été pendant un temps, hein, et ça l'est encore un peu aujourd'hui. Donc, je pense que là, la veille techno, elle est vraiment propre à chacun, et il n'y a pas une bonne façon de faire de la veille, en fait.
Non, il y en a plusieurs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait fait un Radio DevOps sur la veille. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Et il y a une fiche aussi, si tu es sur YouTube, qui va s'afficher justement à ce propos. Bon, Daniel, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser une question rituelle. Est-ce que tu as une ressource à partager pour notre auditeur ou notre auditrice, que ce soit un livre, un article, une conférence ou une vidéo, n'importe quoi, qui peuvent justement l'intéresser?
Alors, je conseillerais la lecture. Alors, pour le coup, c'est un bouquin. Je suis pas trop bouquin en termes de veille techno, mais là, pour le coup, c'est quand même un bouquin qui m'avait été conseillé par l'architecte de l'ESN que j'avais rejoint en 2016, dont je parlais tout à l'heure. C'est Beyond the 12 Factor App de Kevin Hoffman. Et c'est un bouquin qui parle des applications 12 facteurs. Donc, les applications 12 facteurs, c'est les applications cloud native. En fait, il y a 12 points que les applications doivent respecter pour être considérées comme étant cloud native. C'est un manifeste qui a été écrit par des ingénieurs de Heroku en 2012. L'objectif derrière, c'était d'aider les développeurs à adapter leurs applications pour qu'elles tournent sur le cloud d'Heroku, donc c'est très orienté, mais c'est des grands principes qui restent tout à fait valables encore aujourd'hui pour les applications, pour les amener dans le cloud. Donc c'est une lecture que je conseille assez régulièrement, et d'ailleurs j'ai une conf à ce sujet-là qui se base essentiellement sur ce bouquin-là. Effectivement, c'est pour moi une lecture de qualité.
Une conf que tu as créée et que tu as donnée, ou
que j'ai créée et que j'ai donnée.
Ouais. Elle est visible sur YouTube ou pas?
Peut-être, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde.
Alors, si c'est pas le cas, je t'inviterai à venir la faire sur un meet-up en live si ça t'intéresse. Tu me diras en off et on verra. Trois petits points.
Ouais, pourquoi pas.
Écoute, je connaissais même pas ce livre et je vais le lire, parce que moi je suis un grand fan des 12 facteurs, des 12 facteurs, et on en parle très régulièrement dans Radio DevOps, parce que c'est évident qu'une application cloud native doit respecter certains de ces 12 facteurs, et comme tu l'as dit, c'est encore très actuel, et si c'est suivi, ça permet de nous faciliter quand même la vie. Pas mal. Bon, Daniel, où est-ce qu'on te retrouve si on veut parler avec toi?
Alors, j'ai un compte LinkedIn, mais j'ai aussi un compte Twitter. Sur ma bio Twitter, effectivement, il y a inscrit que je suis dealer de produits du terroir. Comme tu l'as bien dit en tout début de session. Le truc, c'est que je suis de moins en moins sur Twitter pour tout un tas de raisons. J'envisage même à terme de supprimer mon compte. Je le fais pas encore, mais je l'envisage de plus en plus sérieusement. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn.
Donc, je mettrai que ton lien LinkedIn et pas ton lien Twitter, du coup.
Oui, c'est plus judicieux.
Je mettrai aussi le site de l'Hydra, si tu le permets, puisqu'on peut aussi te retrouver sur le site de l'Hydra. Et je te remercie. Écoute, c'était super intéressant. J'ai même envie de te réinviter pour parler d'autres sujets, mais on en parlera en off tous les deux. Merci pour ton temps. Et justement, je vais te laisser un mot de la fin avant de passer justement à mon petit mot sponsor.
Je suis très content d'avoir rejoint l'Hydra parce que effectivement c'est un retour d'expérience sur l'Hydra. Je suis très content d'avoir rejoint l'Hydra parce que effectivement ça m'a mis un pied à l'étrier et ça a été un véritable accélérateur pour moi. Voilà, je vais pas en dire davantage parce que je sais que tu vas toi aussi en parler juste après. Donc voilà.
Oui, tout à fait. Je vais t'encourager, toi, si tu nous écoutes, à nous rejoindre. Bon, dans un premier temps, je remercie déjà l'Hydra, qui est le sponsor de cette vidéo, puisque l'Hydra finance tout ce qui est fait autour des compagnons du DevOps, la chaîne YouTube, le podcast et la communauté. Mais tu l'auras compris, notre collectif de freelance, justement, il est là et il veut grandir. Alors, notre spécialité, c'est le mouvement DevOps. Et qu'est-ce qu'on fait? On aide principalement les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans coupure de service. Alors ça, c'est notre promesse. On fait plein d'autres choses, mais ça, c'est notre promesse. Et nous, on pense justement que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes d'une même entreprise, c'est essentiel. Je me suis perdu. C'est essentiel pour atteindre facilement les objectifs et surtout en les atteignant sereinement. Ça, c'est notre credo. On a des spécialités et des spécificités, on aime le logiciel libre et on le promeut, on aime la souveraineté numérique et on la promeut, on fait principalement du déploiement continu avec GitLab CI, Ansible et Terraform, c'est pour ça aussi que ça m'étonne pas que Daniel nous ait rejoint, et puis on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi, autrement appelée CAE ou coopérative d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et ça, ça nous permet d'avoir un statut hyper avantageux. On n'en a pas parlé, mais je te renverrai à d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne secondaire. C'est le statut d'entrepreneur salarié. On est au régime général et on a des fiches de paye. Et ça, on n'en a pas parlé, mais ça peut être très intéressant. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, nos services, ça va de la prestation au mentorat, en passant par l'audit et la formation. On fait plein de choses. On est trois et on cherche à grandir. Donc, si t'es freelance, que tu veux rejoindre un collectif ou si tu veux te lancer en freelance, tu peux nous contacter, surtout si tu partages nos valeurs et que tu as envie d'être entrepreneur salarié au sein d'une coopérative. Tu peux aller sur notre site, je l'ai dit, l'hydra.fr. Tu peux aussi, si tu veux, prendre contact avec Daniel ou moi sur le forum, puisqu'on a le forum des compagnons, ou sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est sur Twitter et LinkedIn. Et tu l'auras compris, pour Daniel, c'est plutôt sur LinkedIn. Suite à ça, on s'organisera des visios et puis on pourra papoter et voir si on va plus loin et puis l'avenir nous le dira. Eh bien écoute, encore une fois, Daniel, je te remercie et puis on va dire au revoir à notre auditeur et notre auditrice avec l'outro habituel.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.